Bio avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 882 d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.tv, l'appellation Grave dans le Bordelais, un Noël à la montagne, mais alors version vin des volcans. Mais oui, on verra ça tout à l'heure. Ainsi qu'un nouveau concept autour du vin. Info, Vino, à mes côtés, Hélène Pio, David Cabol et Philippe Forbach. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Dans trois semaines, c'est Noël. La cave est pleine pour Noël, Philippe, ou pas?
La cave est pleine, voilà, de bonnes intentions, comme on dit.
Et vous, David, toujours du vin anglais là pour Noël, ou on verra,
hein? Je vais peut-être...
Christmas wine?
Non, ça va être limité, les vins anglais, mais ça va être divers et varié.
Bon, très bien. Alors, Invino, retrouve aujourd'hui avec vous, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Nous accueillons Antoine Medville, le fondateur du laboratoire Euno Conseil de Pauillac et copropriétaire du château Fleur Lamotte. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous.
Alors il paraît que vous avez réalisé le rêve de tous les auditeurs de Invino Sud Radio. Vous l'avez fait, hein. Vous avez acheté un vignoble, vous.
Voilà, écoutez, on a effectivement en 2008, on a racheté le château Lamotte, qu'on a rebaptisé Fleur Lamotte.
Alors pourquoi mettre Fleur? Ça fait plus chic?
Oui, ben parce qu'il y a beaucoup de Lamotte en Médoc. Le mot Lamotte, ça veut dire en patois médocain, ça veut dire la butte. Ouais. Comme il y a beaucoup de buts, c'est très très haut le Médoc, voilà.
Ouais, on pratique le ski, donc,
ça culmine à 40 mètres.
Ah, ouais, 40 mètres,
la vue sur l'estuaire qui
est culminant du Médoc.
Bon, en tout cas, c'est un très joli nom, Antoine. Hélène?
Alors, bonjour Antoine, effectivement, on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, parce que vous allez nous raconter ça. Effectivement, c'est c'est pas vraiment une reconversion, mais c'est effectivement la réalisation d'un rêve d'enfant, parce qu'au départ, vous étiez dans le vin, mais pas les deux pieds dans la vigne.
Tout à fait, voilà. On a créé le laboratoire de Pauillac en 4 ans.
Alors, je vous coupe sur le « on », parce que depuis tout à l'heure, vous dites « on », mais racontez-nous. Il nous manquait Edouard et Henri, là, aujourd'hui.
Voilà, en 96, on s'est associé Henri Boyer, Antoine Medville et Edouard Massy. On a créé le laboratoire Eno Conseil de Pauillac. Et à partir de là, nous avons conseillé plusieurs propriétés, dont le château Lamotte, qui appartenait à la famille Bérouet. Et malencontreusement, le fils est décédé en 2006. Et la famille n'a pas pu continuer à exploiter la propriété. Il nous a demandé de voir pour trouver un acheteur.
Et l'acheteur, c'était vous.
C'est ça, vous vous êtes regardé, vous avez dit, c'est nous.
Et oui, voilà, on a fait le pas, on a dit, on s'est regardé, on s'est tapé beaucoup et on est passé de l'autre côté de la barrière. Et ça ça nous a permis de mettre en pratique tous les conseils que l'on peut donner à nos clients et je pense de voir les difficultés aussi que rencontraient les viticulteurs à tous les niveaux, aussi bien au niveau du vignoble qu'au niveau œnologique et commercial. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous parce que ça nous a ouvert les yeux sur les difficultés quand même rencontrées.
Et alors, vous connaissiez déjà bien le côté, effectivement, laboratoire, analyse du vin, mais en amont, donc ce domaine, il fait quoi? Il fait 13 hectares et demi, c'est ça?
Alors, le domaine, c'est 15 hectares.
Ah, comme oui.
Donc, voilà, 15 hectares. Donc, la première des choses qu'on a fait, c'est au niveau de la restructuration du vignoble. On a arraché 3 hectares au total, petit à petit, tous les 3 ans, on faisait, sur lequel on a replanté en partie des petits verres d'eau.
Des petits verres d'eau, c'est quoi? Il y a de l'eau?
Des petits verres d'eau, c'est un cépage typique médocain qui était laissé à l'abandon, qui est en train de plus en plus d'être réimplanté dans le Médoc. Et voilà, donc nous, on en a planté. En gros, ça représente 1,5 hectare sur la surface. Et on a replanté aussi des vieux cabernets Sauvignon qui étaient en mauvais état.
Philippe,
il faut dire que c'est un cépage tardif et qu'aujourd'hui, avec l'évolution du climat, il arrive davantage à maturité. Il apporte de la couleur, de la structure et de l'acidité.
Tout à fait, c'est un cépage du fait du réchauffement un peu climatique qui retrouve les faveurs des viticulteurs.
Hélène,
c'est un cépage très compliqué à cultiver parce que Très poussant, le bois de taille à tailler est très dur parce que c'est, voilà, c'est un bois qui est plus dur.
Ouais, mais
que
c'est un boulot, vigneron. Hein.
Donner des conseils, c'est bien, mais.
C'est ça, c'est que c'est pas tout ça, mais oui, le bois, il est dur, faut le tailler. Alors, voilà. toute cette démarche au vignoble est couronnée de succès puisque vous avez accédé à la qualité environnementale HVE3 en 2019. C'est la haute qualité, la haute valeur environnementale la plus élevée pour une entreprise viticole. Et puis, ben, c'est bon, tout ce travail à la vigne est suivi d'un gros travail évidemment en cuvier, puisque je crois que vous vous amusez beaucoup en cuvier avec beaucoup de petites cuves et vous jouez à tester plein
beaucoup
de choses.
D'essais différents. Voilà, d'abord ça a commencé donc au niveau du vignoble, comme vous dites, au niveau de ces normes. Au départ, on a été Terravitis et après maintenant HVE3. Dès le début, quand on a repris la propriété, notre vision était déjà de ne plus désherber, était de travailler les sols. Dans un premier temps, il faut dire les choses comme elles sont pour un problème de qualité. Donc on a commencé, et on peut dire que depuis 2011, à Fleur-la-Motte, il n'y a plus de désherbant qui est utilisé. Tout est fait, on fait les façons. Voilà, c'est-à-dire que l'on bute la vigne et on ressort la terre ensuite en décavaillonnant.
Et vous produisez combien de bouteilles par an, Antoine ?
À peu près 100 000 bouteilles.
Ah oui, voilà. Faut les vendre. Vous les vendez comment d'ailleurs ?
Alors, on les vend essentiellement par nous-mêmes en grande partie, puisqu'on a une grande partie qui est vendue aux particuliers.
Vous avez une très grande famille, quoi. C'est ça, tout le monde achète des bouteilles
voilà,
de vin.
Voilà, une grande famille, de grands amis qui nous aident à commercialiser, qui font le bouche à oreille. Donc, on vend beaucoup de bouteilles, parce qu'en gros, on fait à peu près 30 000 bouteilles en primeur de Fleur-la-Motte.
Ah, c'est bien.
Et après, le reste de l'année, on en fait entre les cavistes, restauration en gros, une quinzaine de milliers de bouteilles. Ça, c'est sur le château Fleur-la-Motte, rue Bourgeois. Et en gros, il y a entre 10 et 15 000 bouteilles qui sont vendues au négoce. Et le reste, après, c'est un second vin. Parce qu'en gros, on fait, selon les années, entre 50 et 60 000 bouteilles de premier vin.
Ah, quand même, quoi. Alors, avant de le coup de cœur là, d'Hélène Pio, il y a un élément important dans une bouteille de vin, c'est le bouchage. Vous êtes organisé comment, alors ?
Alors, le bouchage, depuis 2011, on a commencé à faire des essais avec des bouchons diam.
D'accord.
Alors, je vais vous dire, en petite quantité, on en a fait, puisqu'on a bouché 48 bouteilles.
48 bouteilles, oui. C'est pas une grosse commande, 48 bouchons.
C'était pas une grosse commande, non, tout à fait. Mais c'était quand même aussi le début des bouchons diam, puisque les premiers, on peut dire que je crois que les premiers essais, c'était dans les années 2007, sans erreur de ma part. Et donc, on a commencé, et puis à petit, on a augmenté. Et pour dire que maintenant, on est quasiment à...
Quasiment au cœur en diam, quoi. Hélène, voilà, le coup de cœur, la sentence, là, parce qu'il parle bien, il est très sympa, Antoine, mais les vins, ils sont comment alors ?
Ah, les vins sont alors, pas mal aussi.
Alors attendez, écoutez Antoine, allez-y Hélène.
Il faut quand même bien le dire, les vins sont pas mal aussi. J'ai goûté le 2017, un très joli nez, cassis, noisette grillée, un côté très bien élevé, très médocain, on peut l'inviter à table pour, chez les beaux-parents pour le week-end, tout va bien.
La belle-mère va apprécier.
Très bien. Un petit peu d'amertume, un petit peu d'acidité, mais c'est très bien, ça fait un bel équilibre du coup dans l'ensemble. On a un vin qui a un joli corps, à table impérativement. J'ai essayé à l'apéro, j'ai pas été complètement convaincue, mais avec une belle pièce de viande, franchement, ça marche.
Le prix, Hélène ?
11-12 euros, c'est ça, Antoine ?
Antoine, c'est combien le prix des bouteilles ?
C'est à 13,50 euros la bouteille départ de la propriété. Après, on a des prix dégressifs qui peuvent
aller
entre 11 euros, selon les quantités.
Merci beaucoup, Antoine Medville. Merci également à vous, Hélène Pio. Invino Sud Radio retrouve maintenant Philippe Orbach, notre meilleur sommelier du monde à nous, mais alors que à nous, hein, pour nous parler des graves. Donc c'est grave parce qu'on reste encore dans le Bordelais.
On reste encore dans le Bordelais, on reste dans la région des graves, qui est quand même une des appellations les plus emblématiques. C'est la seule appellation qui porte le nom de sa géologie, puisque les graves, c'est un mélange de cailloux, d'argile, de sable, de petits galets, etc. Et qui donne effectivement naissance au nom de cette appellation. Les vins de Graves, d'ailleurs, sont considérés parmi les plus anciens vins du Bordelais. Ils sont même les vins de Bordeaux par excellence. À l'époque du mariage d'Aliénor d'Aquitaine et du fameux roi Henri II de Plantagenet, bien
Henri II,
célèbre roi.
Grand copain de David Cobbold.
Les vins, d'ailleurs, connaissent une grande prospérité. C'est une période extrêmement importante pour la restructuration.
C'est surtout Eleanor qui était ma copine.
C'est sûr. Mais surtout, ils étaient malins parce que la prospérité venait notamment du fait que finalement, dans cette région d'Aquitaine, on ne pouvait boire que de vin du Bordeaux puisque c'était interdit d'exporter
c'était
des
interdit.
Vins.
C'était interdit.
Oui, donc,
déjà, l'ouverture des Bordelais à l'époque. Hein.
Exactement. Donc du coup, c'était un peu une certaine autarcie quelque part, mais c'était une grande, bien entendu, prospérité également pour les 27 régions. Alors La région, j'ai dit en préambule, Graves, c'est quand même le nom de cette terre nourricière particulière. C'est une géologie un peu en dentelle, étroitement liée, bien sûr, à la création du fleuve, la Garonne. Et c'est un sol qui est constitué donc de galets, de cailloux, de graviers, du sable mêlé, de limon, d'argile, et reposant sur des endroits, sur des surfaces calcaires, ce qui permet notamment d'avoir des blancs remarquables, mais aussi des textures de géologie qui permettent d'avoir des rouges très intéressants aussi.
C'est assez homogène comme terroir, j'ai l'impression, Philippe. Non, il y a très peu de très mauvais graves, par exemple.
C'est vrai qu'il y a une qualité de géologie qui donne un effet de terroir, parce que c'est aussi ça le terme qu'on utilise, qui a une certaine homogénéité. C'est 3500 hectares de vignes, donc c'est pas petit, mais en même temps c'est la surface d'une appellation comme Châtelain-du-Pape, 3500 hectares, pour donner un repère. En rouge, les cépages autorisés sont le Cabernet Sauvignon, cépage roi un peu de cette région, notamment sur la rive gauche, à la fois les Graves, mais aussi le Médoc ou le Haut-Médoc. Le Merlot, bien entendu, qui ces dernières années a plutôt eu tendance à progresser. Le Cabernet Franc, le Petit Verdot, qu'on a évoqué il y a quelques instants, et également un petit peu de Malbec, mais il est assez peu utilisé dans cette partie du Bordelais.
Ça peut se garder, Philippe, les blancs et les rouges
ou... les blancs, alors, dans les grands terroirs et dans les châteaux les plus célèbres, notamment le secteur de Pessac-Léognan, on a des blancs de garde. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le domaine de Chevalier.
Ah oui, super.
Et j'ai eu l'occasion encore de goûter récemment des blancs de Chevalier de plusieurs dizaines d'années, qui étaient juste incroyablement présents dans le verre et dans les esprits.
Et les rouges aussi.
Les blancs sont élaborés à partir de Sauvignon de plus en plus, de Sémillon pour la densité, le Sauvignon portant aussi la structure, mais aussi beaucoup d'arômes. Et puis également, on a un petit peu de muscadelle, qui peut être agrémentée. Et puis, de plus en plus souvent, d'ailleurs, du Sauvignon gris, qui permet d'avoir une petite nuance et apporter de la complexité justement à l'équilibre général. Donc les blancs peuvent se boire assez rapidement finalement parce qu'ils sont friands, mais ils peuvent se garder je disais tout à l'heure, notamment pour les grands crus. Les rouges sont souvent extrêmement fruités, notamment dans l'appellation grave, c'est-à-dire pas Pessac-Léognan, mais dans les graves tout court. À Pessac-Léognan, on a tendance à faire des élevages plus longs, un peu plus stigmatisants, et qui donnent des vins plutôt de garde.
Quelques vignerons,
voilà,
peut-être,
parmi les domaines, bon, Aubryon est le plus célèbre, Carbonieux, notamment pour les blancs, Clos Floridaine, avec une pensée particulière pour Denis Dubourdieu qui nous a quittés il y a quelques années, des blancs remarquables. Domaine de Chevalier dont j'ai déjà parlé, que ce soit en rouge ou en blanc. Malartic La Gravière qui a été repris par la famille Bonnier en 98 est juste devenu un des incontournables de la région. Et des petits domaines comme Respin-Medville par exemple, le Château de France, le Château Magence par exemple, sont des très jolis domaines auxquels on pourrait rajouter la remontée qualitative ces dernières années du Château Olivier, qui donne des très beaux résultats et d'un magnifique rapport qualité-prix.
Alors justement, le prix moyen en blanc, en rouge, voilà combien, Philippe ?
Pour les graves, en appellation grave générique, entre guillemets, on a des vins à partir entre 10 et 15 euros.
Oui.
C'est franchement raisonnable.
Et pour les
grands crus, la fourchette est large, ça va de 30 à plusieurs centaines d'euros pour Aubryon.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Place de la Madeleine pour le Vino-Quiz et gagner plein de cadeaux. À tout de suite.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec le sourire exceptionnel et la voix d'hôtesse de l'air d'Hélène Pio pour direction le Vino Quiz.
Je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine,
alors, Je vois David et Philippe qui s'en vont, là, ça va pas du tout.
Ils n'en peuvent plus.
Elle est l'hôtesse de l'air, mais aussi l'hôtesse du vin. Hein.
C'est vrai. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question de la semaine dernière était « Qui a écrit « La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux ?» Réponse A, un moine allemand. Réponse B, un brasseur anglais. Il s'appelait David Cobold. Réponse
Sir
C,
Cobold.
Un homme politique américain qui prétendait ne boire que de l'eau. Eh bien, c'était la réponse C. Ils sont fourbes, les Américains. Benjamin Franklin. Voici la question de ce week-end. De quel château Antoine Medville et ses associés ont-ils fait l'acquisition en 2008? Réponse A, château Fleur-Lamotte. Réponse B, château Pissenlit-la-Colline. ou réponse C, le château de Versailles. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
C'est bien, on peut féliciter d'ailleurs la collaboratrice de l'émission, Charlotte, qui trouve toujours des très bonnes questions, qui nous font rigoler. Bravo Charlotte. Alors, Invino Sud Radio retrouve David Cobold, qui lui fait aussi beaucoup rigoler, enfin ça dépend, pour nous parler non pas de l'Académie des Vins et Spiritueux, mais d'un premier Noël avec vous là, à la montagne, dans les volcans.
Alors, petite montagne pour commencer.
Petite montagne.
Mais il y a des gens qui préfèrent le ski de fond ou ski de piste, et puis aussi, s'il n'y a pas de neige, on peut marcher, c'est une très très belle région, il y a beaucoup de marches, en été comme en hiver. Je vais vous parler du Puy de Dôme.
Ah, le Puy de Dôme.
Le Puy de Dôme,
ah,
oui,
très
à la,
bien.
Oui, à côté de Clermont-Ferrand, magnifique.
Il y a beaucoup d'eau dans le coin aussi. Hein.
En hiver, oui, mais pas en été, il fait très sec en été. Mais là, on va parler des vins. Et des vins de quoi? Des vins de volcan, de terre volcanique. Puisque, figurez-vous, à la Marty, à la fin janvier et début février, il va s'organiser à Clermont et autour, à Volcania, le premier salon des vins de volcan qui s'appelle Vinora. Alors, vous pouvez trouver des informations. Vinora.
Et pourquoi rare?
J'en sais rien, bah, vous allez leur demander vous-même.
Volcano, Vinagora. Ouais.
Alors, je voulais faire Vinorama, mais j'avais plus d'encre.
Ça vous intéresse ou pas, ce que je raconte?
Vulcania, il y a beaucoup de...
Oui, c'est ça.
Vinora, s'il vous plaît. Le Puy de Dôme, alors, David Cobol.
David Cobol, je vous en prie.
Alors,
David.
Le vinora.vin, parce que maintenant il y a un préfixe, un suffixe vin, dans le net, vous aurez toutes les informations voulues, y compris l'explication sur le nom, peut-être. Alors, du coup, en préambule, j'ai pu assister à une dégustation des vins issus de volcans, et je me suis concentré sur les vins du Puy de Dôme, et je me suis intéressé, du coup, à ce vignoble, qui fut très grand. On ne pense pas, aujourd'hui, il y a 400 hectares, c'est rien du tout. Mais au milieu du 19e siècle, il y avait presque 30 000 hectares dans le Puy de Dôme.
Ah oui,
c'est
l'équivalent alors, de la Champagne actuelle, par exemple.
Exactement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont tous été malades à force de boire du vin.
Il y a eu le mildiou, il y a le phylloxera. Et puis, là-dessus, il y a eu l'exode rural. Catastrophe. Donc, de 28 000 ou 30 000 hectares, on est tombé à 400 hectares dans l'appellation Côte d'Auvergne, parce que telle est l'appellation officielle. D'accord. Aujourd'hui. Alors, il y a des vins qui sont faits en dehors de cette appellation, qui se portent simplement le nom Vin de France, si on ne plante pas les cépages autorisés, qui sont relativement simples, parce que pour les rouges, c'est soit Gamay, soit Pinot Noir.
D'accord.
Et pour les blancs, c'est que Chardonnay.
Que Chardonnay, d'accord. Hein,
donc, on est beaucoup plus simple.
Et ça donne quoi par rapport à un Chardonnay un peu plus du côté de Chablis,
alors,
par exemple?
Je vais y revenir, parce que j'ai goûté différents vins, pas beaucoup de blancs, mais surtout beaucoup de rouges et des très très jolis rouges. Alors, est-ce qu'on peut détecter, la question qu'on a le droit de se poser avec ce thématique volcan, est-ce qu'on peut détecter la pierre de lave dans un vin? La réponse est évidemment non.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs.
Oui, parce qu'est-ce qu'on a envie de bouffer du volcan? Je ne sais pas.
Hélène Bio, non?
Alors,
est-ce
non,
déjeuner,
non,
un
non
petit
j'ai arrêté.
Non.
Est-ce que ce sont des vins explosifs? Est-ce que ça sent le soufre? Est-ce que c'est des vins à forte pente? Ben, ni l'un ni l'autre. C'est pas ça le propos. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette région, c'est que d'abord, les cépages sont plutôt simples. Le vignoble est très dispersé. Hein. Ce n'est pas monolithique, c'est des petites poches ici et là. En gros, entre Issoire et Riom, la ville du nord, Issoire au sud, autour de la ville de Clermont-Ferrand, et puis abrité par les montagnes du Puy, hein, la chaîne des Puys, qui abrite des vents, un peu comme les Vosges abritent l'Alsace. Donc on a une région plutôt sèche en été, froid, très froid en hiver, puisque la température moyenne en janvier et février, c'est 3 degrés, et puis ça monte à un moyen de 20 degrés en juillet-août. Alors, c'est assez bien pour produire ces vins de style léger et fruité. Alors, il y a 5 sous-appellations, appellations village, qui sont autorisées. Madargue, Châteauguay, Chanturgue, Coran et Boude.
Donc, Boude.
Boude, Boude. Mais on ben ne voilà. Boude pas à Boude.
Non.
Alors, je vais la refaire, celle-là. Elle est toute nouvelle pour eux.
Dans le best-of,
ça vous plaît,
ça, oui,
best-of,
sûr, oui.
Voilà. Alors, je vais vous donner quelques bons vignerons que j'ai dans le
goûté.
Mon coup de cœur, c'est vraiment mon chouchou, c'est le Clos des Amoureux. Quel joli nom.
Le Clos des Amoureux.
Clos
ah,
des Amoureux.
C'est joli, quoi.
J'ai goûté le 2016, Vincent Ozol, c'est le nom du vigneron. Il se trouve à Chanturgue, donc il porte la mention Chanturgue, Côte d'Auvergne. C'est un assemblage 70% Gamay, 30% Pinot Noir. C'est fin, c'est fringant, c'est assez lent en bouche. J'ai encore regoûté ce midi, figurez-vous, parce que j'ai...
Ça s'entend.
Non,
j'ai
pas
acheté
du
une bouteille.
Non, c'est le côté professionnel.
Juste avant l'émission.
Côté professionnel,
je valide, je revérifie. Ce vin est vraiment gourmand. C'est un très bon vin. Si vous aimez les vins légers, mais qui ont du corps, qui ont du fruit, c'est vraiment le style de
combien
vin.
Ça coûte, David?
Ça vaut 10 euros.
Ah oui, c'est pas cher.
Oh, c'est pas cher.
Allez,
et pour cette qualité,
et un deuxième, top. Peut-être?
Oui, oui. Alors, deux autres. Alors, après, on joue sur les noms du volcan. Il y a un cuvée qui s'appelle Magma. Bien sûr,
Magma, oui.
Du domaine de la Tour de Pierre, qui est un pur gamay, qui est très bien, à 8 euros. Et Volcanique, alors c'est plus explosif, de David Pellissier, également un gamay plus vif, plus carré, plus volcanique. Quoi.
Donc à découvrir, quoi, les trois.
À découvrir, et puis un blanc, il ne faut pas oublier les blancs, j'ai goûté un blanc qui s'appelle Volcan. de domaine Miolan. Et alors, c'est assez étonnant parce que là, il sort de l'appellation, c'est un vin de France. Il assemble Chardonnay, Gewürztraminer et Pinot Gris.
Ah oui, et ça fait un truc bien.
Un truc bien. Ouais, un truc bien. 8 euros aussi. Ouais, non, 9 euros. Bon.
Et je sais que ce ne sont pas les vins préférés de David, mais d'ici quelques mois, je vous conseille de goûter les rosés. Franchement, il y a de très très jolies choses.
Les rosés, c'est très
joli. En Côte d'Auvergne, il y a de très belles choses.
Des caractères.
Et ça marche avec les lentilles ou pas, David?
Le rouge. Peut-être. Oui, oui, pourquoi pas.
Merci beaucoup, David Cavol.
Voilà, donc goûtez ça, découvrez ça. Si vous êtes là ou si vous êtes ailleurs, ça vaut le coup.
Ouais, merci, David. InVino Sud Radio retrouve Hélène Piau avec un nouvel invité, Pierre-Édouard Vranckx, qui est le directeur général d'InfoVino. Bonjour, Pierre-Édouard.
Bonjour.
Alors,
à vous.
C'est quoi votre concept? Le concept. Il n'y a pas de volcan dans votre histoire, là?
Non, du tout, du tout. Bon. Le concept, c'est de pouvoir connecter les bouteilles pour avoir de l'information.
Les bouteilles se connectent pour avoir de l'information?
Tout à fait.
Alors, comment ça marche?
Le principe est qu'en fait, on a parfois des bouteilles, on n'a pas de connexion Internet ou on a des applications qui ne nous permettent pas d'avoir une information exacte. Donc, il fallait que la bouteille communique et véhicule cette information. Et donc, nous sommes partis, on a fait une phase de recherche et développement et nous avons trouvé des puces NFC, donc le sans contact, hein, qui ont une capacité mémoire pour détenir cette information et qui puisse être délivrée directement au smartphone.
Hélène?
Donc, je résume. Je suis une acheteuse, je suis chez un caviste, voilà. Je suis chez un caviste, et là, la bouteille me parle quand je m'approche avec mon téléphone.
Bonjour, Hélène Piau.
C'est ça.
C'est possible également, c'est accessible également aux malvoyants et aux non-voyants. Donc, avec
mais comment elle parle à Hélène, la bouteille, là? Comment elle fait, Hélène, techniquement pour
alors, quand on parle à Hélène, on dit « Bonjour, Hélène
». Chouette.
Surtout à Roissy, à Orly. Hein,
c'est ça. Ouais. Non, en fait, il a donc d'abord fallu télécharger votre application, c'est ça?
Tout à fait.
Donc, l'application InfoVino, on la trouve facilement.
Exactement.
Voilà. Elle est gratuite.
Elle est gratuite.
Très bien. Et une fois que j'ai téléchargé cette application, vous dites que donc, même sans connexion Internet, une fois que je l'ai dans mon téléphone, c'est bon. Après, je peux... comment ça se passe? On scanne même pas la bouteille, en fait.
En fait, on passe son téléphone, comme on passe sa carte bleue sur le périphérique de paiement.
D'accord.
En fait, à courte distance, et on récupère l'information directement de la bouteille.
D'accord.
Et qu'est-ce qu'on a comme
information? Voilà, quel type d'information?
Donc, le prix qui est marqué clairement en dessous. Voilà.
Tout à fait, non. On récupère la fiche technique du vin. En fait, cette puce est apposée sur la bouteille et la seule chose dont on soit sûr, c'est le contenu de cette bouteille et donc c'est l'information, c'est la fiche technique du vin. Donc c'est le vigneron qui renseigne cette fiche technique, personne d'autre. Et on a également une base de données dans l'application qui nous permet d'aller plus loin que la fiche technique où on a les cépages, les appellations, les labels qui sont apposés sur les bouteilles et tout ceci est vérifié donc soit par des empélographes, soit par les bureaux interprofessionnels ou les NAO ou les organismes certifiants et labellisants.
Hélène?
Donc en fait, c'est un petit peu comme si on était connecté au site internet du vigneron, sauf qu'on est chez son caviste et que voilà, on peut le faire sur 3, 4, 5 bouteilles.
Sur plein de vignerons
aussi. Si toutes les bouteilles sont connectées.
Ouais. Exactement.
Et même si on est hors connexion, si j'ai compris.
Tout à fait.
Très bien.
Et vous êtes quoi, le UK du vin, vous?
Le UK du vin, on n'a pas cette prétention. C'est pas la même spécificité. Sauf qu'on a quand même des vignerons qui nous ont demandé d'aller plus loin, comme Olivier Lemasson ou Mathieu Lapierre, de rajouter par exemple les analyses œnologiques. Donc effectivement, de ce côté-là, on peut se rapprocher du UK.
D'accord, Hélène?
C'est ça. Donc, et en fait, le truc, c'est que c'est les vignerons qui remplissent eux-mêmes donc, leurs infos. Vous avez dit, bon, sous contrôle, effectivement, des laboratoires pour ce qui est de leur fiche technique. Mais est-ce que... Enfin, ça ne va pas jusqu'en temps réel. Je veux dire, si la veille, ils ont changé un truc dans leur vinification, ils ne peuvent quand même pas, en temps réel, renseigner les bouteilles. Une fois que la puce est sur la bouteille, l'info est définitive.
De toute façon, Hélène, une fois que le vin est dans la bouteille, il ne va pas changer la constitution, quand même.
C'est pas faux. Bon, ah, non, mais on peut imaginer des infos.
Très bonne question, Hélène Piau, là. C'est... Non, mais vous n'êtes pas obligé de répondre.
Des infos sur l'actu du vignoble.
Non, je n'y répondrai pas parce que j'approuve la réponse de David Cobold.
Oui, oui, il faut toujours être d'accord avec David Cobold. Nous, on a tout compris maintenant. On dit toujours oui à David, quoi. Hélène.
C'est plus tranquille, effectivement. Donc, ça coûte 50 centimes hors taxe pour le vigneron.
Ah, voilà, qui paye, quoi.
Exactement.
C'est ça. Et en payant 1,50€, il a jusqu'à 8 langues.
Jusqu'à 15 langues. En fait, nous avons deux types de puces avec deux capacités de mémoire. Mémoire différente. En fait, ce sont les puces les plus chères parce qu'elles ont une capacité mémoire. Celle en une langue est à 50 centimes et celle pouvant jusqu'à 15 langues est à 1,50€.
1,50€. Ah oui. Et donc, vous gagnez des sous là-dessus, votre business model, c'est ça, quoi?
Exactement.
Et vous avez combien de vignerons pour l'instant qui sont clients de l'appli?
On a plus de 800 vignerons de référencés. Tous ne sont pas encore clients et sont déjà un peu utilisateurs. Mais
et c'est mondial, le truc, en plus, non?
Exactement.
Ouais, c'est bien. David, Philippe, on réagit au propos. C'est bien, c'est débile, c'est quoi?
Non, c'est pas débile du tout. J'aimerais bien essayer. essayer, parce qu'il faut toujours essayer. Avant, c'est comme il faut goûter avant de se prononcer.
Oui, on va se limiter là dans les comparaisons.
Est-ce que ça fonctionne avec tous les téléphones ou pas encore? Je crois que c'est iPhone 7 et au-delà, pour ce qui est
d'iPhone. Exactement, iPhone, Apple n'a ouvert le NFC qu'à partir de l'iPhone 7. En revanche, Android l'a ouvert déjà bien avant.
Philippe,
est-ce que ça fonctionne sur les bouteilles vides?
Si la puce est là.
Si la puce est là, effectivement,
elle reste active. Elle reste active.
C'est tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne l'avons pas collée sous la capsule pour justement pouvoir garder l'information en permanence sur la bouteille.
Est-ce que les puces sont recyclables ou sont recyclées?
Les puces sont recyclées. Effectivement, nous avons fait des études avec une entreprise de recyclage, non seulement pour vérifier que ça ne détériorait pas le recyclage, n'empêchait pas du verre de la bouteille. Oui. Donc, c'est surtout au niveau de la colle. Et après, la puce elle-même, c'est de l'aluminium et du silica.
Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Edouard. Et puis, vous également, Hélène, Philippe et David. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission. C'est deux fois qu'on en parle, Charlotte. Ça commence à faire beaucoup, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv et puis notre page Facebook. Invino, on se retrouve demain, n'oubliez pas, demain à 12h30 pour une nouvelle émission. C'est pas une rediff, c'est une nouvelle. Toujours délocalisée chez Nicolas, on parlera gastronomie avec un grand chef parisien, des coteaux bourguignons, ainsi qu'un livre que le monde entier nous envie, 50 jours pour comprendre autrement le vin. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations. Salut, à demain.
Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.